OK, alors, Apocalypse au chapitre 19, c'est ce que nous avons lu ce matin avant le temps de prière. Et là, on va lire les versets 6 à 10. Ça va être notre texte pour ce matin, donc en plein cœur de ce chapitre. Ce chapitre, je disais, de contraste où on voit Christ qui vient établir son règne, glorieux, les noces de l'agneau, mais aussi le jugement de ses ennemis. Et ça fait partie aussi de son règne. Dieu va amener toutes choses en jugement. C'est pas populaire dans notre monde postmoderne, mais c'est la réalité. Et donc, on lit à partir du verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Merci Seigneur de ce qu'on a ce temps ce matin avec toi, dans ta maison, avec ta parole qu'on a sous les yeux. Merci Seigneur que tu as quelque chose non seulement pour chacun ici, personnellement, spécifiquement, mais tu as quelque chose aussi pour nous en tant qu'Église. Et merci que tu es comme ça, personnel, bienfaisant, et que, Seigneur, tu t'occupes de tes enfants. Et même aussi, Seigneur, tu te fais connaître à ceux qui te connaissent pas encore. Et on te prie, s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent aujourd'hui te recevoir, toi, le vrai Dieu, le seul sauveur. Et donc, Seigneur, on s'attend à ton travail, à ton œuvre. Merci que tu es vivant, fidèle et bon. Donc, on prie avec une pleine confiance. On se repose en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce passage, force est de constater la grandeur, la gloire d'un passage comme ça, où on voit ce nouveau mariage merveilleux, les noces de l'agneau qui sont annoncées à d'autres endroits dans les Écritures. Et on peut dire que non seulement ça clôt le thème du mois de novembre, parce qu'on est le dernier dimanche de novembre, mais aussi on peut dire que ça clôt l'histoire de la rédemption, où le deuxième époux, l'époux parfait, Jésus, la tête de la nouvelle humanité, parce que le premier Adam était malheureusement a péché et a amené la mort. Mais Jésus, ce dernier Adam, a renversé toute cette malédiction et vient boucler la boucle en amenant à sa plénitude, à la perfection, la relation qui était brisée en Éden. Et vous savez qu'on a encore des dommages. Si ça ne va pas bien dans votre vie, là, ça a parti en Éden, puis c'est la continuation de ce qui a été commencé là. Et ici, on voit vraiment c'est quoi ce mariage, c'est quoi l'essence d'un mariage, c'est quoi, si on réduit ça à sa plus simple expression. Le mariage, c'est l'union de deux personnes à la gloire de Dieu. Bon, vous allez dire, c'est pas tout le monde qui vit à la gloire de Dieu, c'est pas tout le monde qui est marié dans le Seigneur. Non, mais le plan original, c'est ça. Évidemment, lorsqu'on a des rachetés, des enfants de Dieu qui s'unissent comme ça dans les liens sacrés du mariage, ils vivent ça, encore de façon impartielle, parce que tout n'est pas à la gloire de Dieu, parce qu'on a encore la chair et tout ça, mais bon. Donc, ces mariages les noces de l'agneau, on va considérer ça ensemble, mais juste avant, remarquez comment dans le verset 6, à la toute fin, ça dit « Notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » C'est, si vous voulez, la connexion, le lien avec le thème du mois dernier, le nouveau règne, Christ qui a fait toutes choses nouvelles. Et ça nous donne la teneur, si vous voulez, de ce qu'aujourd'hui on va regarder, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le triomphant, celui qui est bienfaiteur, celui qui a établi son règne de paix, de justice et d'amour, Et c'est ça la base des noces de l'agneau. C'est pas un mariage comme n'importe quel autre mariage. C'est l'ultime mariage entre l'époux parfait, mais aussi qui a rendu parfaite l'épouse par son œuvre. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. J'aimerais qu'on considère ensemble deux facettes uniques du nouveau mariage glorieux. Et on l'attend, ce mariage-là, d'une façon, puis d'une autre façon, on le vit aussi, parce que nous sommes déjà unis à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, mais d'une autre façon, les choses ne sont pas encore arrivées à leur terme. On n'a pas encore pleinement tout vécu ces choses. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis que ça nous ramène à ce qu'on a vu dans le mois d'octobre, « Already but not yet ». C'est déjà en vigueur, mais ce n'est pas encore pleinement complété. OK? Deux facettes uniques du mariage glorieux avec Christ. D'abord, dans les versets 7 et 8, on a la joie de ce mariage. Réjouissons-nous, ça nous dit au verset 7, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici l'accomplissement de l'attente, de l'espérance de tous les saints, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament et même de la création. Parce que la Bible nous dit que même la création soupire après cette délivrance, ce temps où est-ce que justement notre Dieu va rentrer dans son règne et tous ses ennemis vont être mis sur son marchepied. Et là, on a ça ici sous nos yeux. C'est pour ça que ça a dit que c'est un sujet de réjouissance et d'allégresse. Et on a ici au verset 8, la joie des œuvres justes. Ça nous parle ici à la fin que le fin lin, ça représente les œuvres justes des saints. Je vais vous parler de ça un petit peu. Pourquoi ce sont des œuvres justes? Parce qu'elles sont faites par le juste. Vous savez, il y a un titre de Jésus qui est donné dans les Écritures. Par exemple, dans Actes 7, dans le discours d'Étienne, il dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Donc, de Jésus, le Messie, OK? Le juste. Et on voit ça aussi dans Actes 3. Vous avez renié le saint, c'est le discours de Pierre à la Pentecôte. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et donc, ce sont des œuvres justes parce que c'est le juste qui en est à l'origine. Et aussi, ce sont des œuvres vivantes parce qu'elles viennent du Dieu vivant. Et ça, c'est en contraste avec les œuvres mortes. La Bible nous parle dans Hébreux au chapitre 6 que... En fait, je vais vous le lire. Hébreux au chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, les œuvres mortes, et c'est par contraste aux œuvres justes, et vivante en Dieu parce que le Dieu juste et le Dieu vivant en est à l'origine. Et c'est pour ça que c'est une joie, parce que c'est authentique, c'est pas du fake, c'est pas de la contrefaçon. C'est pas comme l'hypocrisie repoussante et je dirais meurtrière de la justice propre pharisianique. Et quand je dis meurtrière, littéralement, Jésus a été tué par cette justice propre, les pharisiens, hein, qui, voulant établir leur propre justice, ont rejeté la justice de Dieu. Dieu, leur justice qui était là devant eux autres et qui ont rejeté. Mais aussi, c'est la justice propre du soi. Lorsque moi, dans mes relations, non seulement avec Dieu, mais avec les autres, je me mets de l'avant, je veux avoir la prééminence. Et comment souvent ça va se manifester? Ça va se manifester souvent par la langue. Pourquoi? Parce que quand on s'en va vers la mort, quand on, comme notre frère l'a chanté, au lieu qu'on choisisse la vie, que par défaut on laisse la mort, et là, comment ça va se faire? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et souvent, c'est quoi la différence? La Bible nous dit que toute parole de votre bouche, qu'elle communique une grâce. Et on ne peut pas communiquer de grâce avec le soi. Ce n'est que Christ en nous qui lui-même est la grâce de Dieu, qui peut communiquer cette grâce. Et non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans ce qu'on vit dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit dans Hébreux 13, 15? Ça dit « Offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et ça, mes amis, c'est la différence entre la mort et la vie. Comment on choisit la vie? C'est lorsque, dans les circonstances que Dieu nous place, dans les relations que Dieu nous permet d'avoir, de choisir la vie, de choisir Christ. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans cette vie. Et ça, c'est une question de cœur, c'est fondamental. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça que je dis que c'est en lien avec les paroles. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et je vais amener un point par rapport à ça. On parle de la joie du nouveau mariage. Et pourquoi c'est une joie? Vous savez, il y a une différence entre la joie du Saint-Esprit, okay, qui est un fruit de l'Esprit, versus la frivolité, ou essayer d'avoir du pep puis d'essayer de s'encourager, OK? Il y en a un qui est une contrefaçon, il y en a un qui se manufacture humainement, et l'autre qui est le fruit de la vie du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu. Et il y en a un qui peut être fait en apparence, l'autre c'est en esprit et en vérité. Et donc, c'est quoi la joie du nouveau mariage? C'est la joie de pouvoir apprécier, de jouir de notre union avec Jésus-Christ, de déborder de cette union. C'est-à-dire, c'est une joie qui ne part pas de nous, mais du fait qu'on est unis à Christ qui vit en nous. C'est une joie qui n'est pas circonstancielle, qui n'est pas conditionnelle, mais qui est reliée à celui qui vit dans les enfants de Dieu. Et j'ai dit, pas conditionnelle? Peut-être pas, parce qu'il y a la question de la foi là-dedans. Le juste vivra par la foi. Et je voulais un verset qui va vous amener souvent devant cette condition d'une façon assez poignante. Pierre, qui ouvre son épître en parlant de l'épreuve de la foi, il dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. » Ça, c'est la joie qui vient du fait d'avoir de s'être confié en Dieu, de regarder à Dieu dans l'épreuve. Donc, pour la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et je dirais, cette joie d'être uni à Christ, cette joie du mariage, c'est une joie qui se vit, qui s'apprécie par la foi. Et c'est pour ça que ça nous dit, voulez-vous un beau « il faut » ce matin? Il y en a un biblique ici. C'est comme ça qu'on a lu, qu'on a commencé ici. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu... excusez, je ne suis pas dans le bon passage. C'est à cela... voyons. OK, c'est cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Ça, c'est pas un homme qui nous dit « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci ». C'est Dieu qui dit « mon enfant, il faut que je te fasse passer par là, parce que moi, je sais ce que tu as besoin, je sais c'est quoi mon plan avec toi. Il faut que tu passes par l'épreuve ». Et je dirais que lorsqu'on est dans le feu de l'épreuve, lorsque ça fait mal, lorsque on est déçu, lorsque c'est triste et lourd, ce « il faut-là », ce n'est pas un fardeau, c'est un réconfort. C'est lui qui dit, mon enfant, c'est-tu quoi? Je suis en plein au contrôle, puis il faut que tu passes par là parce que c'est ce que j'ai pour toi. Je suis en train de m'occuper de toi. Il faut que tu passes par là parce que ça fait partie des bons soins de ma bonté envers toi. C'est un réconfort qui nous rappelle que, OK, Dieu, tu as décidé ça. Et là-dessus, je vous donne une illustration fraîche. Josiah m'a prêté un livre, ça s'appelle, ceux qui connaissent l'anglais, « Off Script ». OK? Des fois, on dit « off the record », mais « off script », c'est l'idée qu'on écrit une histoire où il y a, OK, on a notre histoire qu'on s'est écrite, puis l'idée, mais là, whoop, on tombe en dehors du script, on tombe en dehors de ce qui est dans l'histoire normale. Puis l'idée, ce que le gars, il dit, c'est que, puis c'est une histoire vécue, là, OK? C'est un pasteur en Californie qui, dans le fond, a été frappé du cancer, il ne s'attendait pas à ça, bon. Mais il dit, moi, j'avais mon plan, là, je sens le Seigneur, puis j'ai ça que je veux faire, puis là, il a dit, non, là, tu sais, ton histoire, là, on met ça de côté, là, voici, là, c'est moi qui... Puis on sait que c'est Dieu qui écrit toute notre histoire, mais souvent Dieu, dans sa bonté, permet que, tu sais, ce qu'on s'imagine, ça va pas mal comme on pensait, à un moment donné, pouf, il nous sort complètement du script. Puis là, mais ça, c'est l'épreuve de notre foi. Puis j'ai pas beaucoup avancé dans le livre, là, j'ai pas eu le temps ben de lire cette semaine, mais je pense que ça va être justement ce témoignage-là, parce que c'est un enfant de Dieu. Qu'il a tout sujet de se réjouir, puis même qu'il veut dire, il a pleuré, lui et sa femme, puis quand j'ai lu ça là, cette semaine, quand il a annoncé ça à ses enfants, imaginez-vous, qu'elle avait le cancer, puis qu'il y a une forme moins grave, puis une forme grave, puis que finalement, c'est plus la forme grave. Fait que là, j'ai pas fini tout le livre, là, puis en tout cas, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il est encore vivant, cet homme-là, je pense que Dieu l'a guéri. Mais tout ça pour dire que Dieu a dit à cet homme-là, il faut que tu passes par là. C'était pas dans son script, c'était pas dans son plan d'histoire. Mais Dieu, il a dit, il faut. Puis savez-vous quoi? C'est ça qui fait que c'est un sujet de joie. C'est que Dieu nous dit, OK, c'est ça que j'ai pour toi, mon enfant. Et la foi dit, OK, moi, j'aurais pas choisi ça, mais Dieu, puisqu'il dit qu'il le faut, c'est l'épreuve de ma foi, ben, je veux me réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. Pourquoi? Parce que j'aime ce passage d'Habacuc. Frère, je me rappelle, à un moment donné, tu avais amené ça. C'est comme, je le connaissais le verset, mais des fois, Dieu sert des frères, des sœurs pour nous amener des vérités, où est-ce que, tu sais, dans Habacuc, là, lorsque, là, c'est une société agricole, c'est différent, puis il dit, quand même que là, la vigne, elle donne plus son fruit, puis finalement, là, il regarde, puis quand même que tout dépérit, puis que ça va mal autour, là, c'est ce qui exprime le prophète, puis aussi, en plus, bon, le jugement qui s'en venait et tout, on sait qu'Habacuc, c'est le prophète perplexe, il se demandait, comment ça, Seigneur, tu fais des choses demain, ça se peut pas. Demain, il était pas mal en dehors du script, lui aussi. Il disait, malgré tout ça, je veux me réjouir en l'Éternel, mon Dieu. Habacuc, il avait compris que l'épreuve de la foi, c'est quelque chose de bon. Il dit, je vais me réjouir parce que c'est Dieu qui fait son œuvre et je vais garder les yeux sur lui. Donc, c'est ça l'idée d'un mariage nouveau, glorieux. C'est une joie qui nous amène le fait de connaître Dieu et être unis à lui en dépit des circonstances qu'ils peuvent avoir. Mais regardez aussi au verset 9, on a la deuxième facette de ce mariage glorieux. C'est la bénédiction de ce mariage. L'ange me dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau » puis il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu ». La bénédiction du mariage que nous avons avec Christ. Vous savez, ceux qui lisent en anglais, quand ça dit heureux, souvent en anglais, ça dit béni, blessed. Okay? La racine étant pas mal là, la même idée. Là. Donc, puisque tu es béni, tu es heureux de ça. C'est un état de béatitude, de joie. Vous comprenez l'idée, là? Okay? Donc, j'ai pris le point bénédiction de l'anglais, dans le fond. Mais il y a deux éléments ici qui sont nés dans cette bénédiction du mariage avec Christ. D'abord, ça dit ceux qui sont appelés. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les aléas doctrinaux de ça, mais je veux juste l'amener au niveau relationnel. Cette expression nous parle d'une relation personnelle. Dieu nous appelle par notre nom. Il y a quelque chose de personnel là-dedans. Ce n'est pas impersonnel, puis juste un Dieu comme ça, puis là, oups. Non, Dieu, les brebis du Seigneur entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Donc, on voit ici l'expression d'un rapport personnel avec Dieu et son enfant. Et je vous le lis, là, j'ai référé à Jean 10. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et entendre comme ça la voix du berger, c'est le premier point essentiel pour commencer une relation. Ici, vous êtes ici, vous ne connaissez pas Dieu. Puis là, je vais amener le point, là. Notre soeur a prié pour ça tantôt. C'est possible de venir à l'église, de savoir tout ce qu'on est supposé dire, de faire, de savoir tout ce qu'on est supposé faire, d'avoir tout, qu'on passe inaperçu. Mais dans notre cœur, de ne pas connaître Dieu. Et il y en a qui jouent là-dessus, qui veulent faire rendre les gens coupables, puis tout ça, puis essayer de manipuler pour avoir un résultat. Moi, je ne veux pas aller là, mais je veux amener la réalité, si vous ne connaissez pas Dieu, Il faut que vous le connaissiez en esprit et en vérité. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est votre plus grand besoin. Et quand même que vous pourriez, même, savez-vous quoi? La pire chose souvent dans ces cas-là, c'est que la personne se trompe elle-même. Elle pense qu'elle est sauvée parce qu'elle fait toutes les bonnes affaires, puis elle dit toutes les bonnes choses, puis elle sait tout comment ça marche la vie chrétienne. Mais elle ne connaît pas Dieu dans son cœur. Et la réalité de ça, ça se voit. Il n'y a pas la voix du berger, il n'y a pas cette relation, il n'y a pas ce réconfort. Vous savez, les enfants de Dieu, des fois, on passe par des vallées. Des fois, on est dans le fond de la fosse. Mais un enfant de Dieu crie à son Dieu. Il y a cette relation, il y a cette intimité avec Dieu. On va en parler cet après-midi. Et donc, si pour aujourd'hui, tu te reconnais dans le fait que non, moi, je ne le connais pas personnellement, ce berger, bien, il t'appelle à lui pour être sauvé. Et pour nous ici, les enfants de Dieu, je dirais que, bon, le premier pas, c'est de répondre à la voix du berger qui nous appelle à lui. Mais au quotidien, c'est quoi être un chrétien? C'est marcher avec Dieu. C'est Christ en nous, l'espérance, la gloire. C'est pas juste une voix qu'on a entendue une fois pour être sauvé. C'est notre berger qui, à chaque jour, nous fait entendre sa voix. On sait, hein, la vie chrétienne, c'est pas des choses qu'il faut faire, faut lire notre Bible, on va être un bon petit chrétien, parce qu'on peut faire ça avec le cœur à 100 000 au loin du Seigneur. On peut faire ça religieusement. Non, c'est entendre la voix du Seigneur. Parce que Dieu est relationnel. Il s'est fait connaître à nous par sa parole et il continue de se faire connaître à nous encore par sa parole. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on approche la parole, de l'approcher dans l'esprit d'Éphésiens chapitre 1. Dieu illumine les yeux de mon cœur. Dieu, que les trésors de ta parole se révèlent à mon cœur, que la grandeur de qui tu es, de ton œuvre, de ce que tu as fait de moi, Seigneur, tout ce que tu as, les richesses incompréhensibles de Christ, Seigneur, je les veux pour mon cœur aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'idée, la bénédiction d'être appelé de Dieu, de cette relation personnelle, mais aussi, on voit à la fin du verset 9, ça nous dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Comment c'est précieux, hein, dans un époque. On dit qu'on est à l'ère de l'information, peut-être plus de la désinformation, là, mais vous comprenez l'idée. Information des choses et tout ça. N'est-ce pas un vent de fraîcheur de savoir que les paroles de Dieu sont véritables, parce que la Bible nous dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. C'est là que les hommes veulent juger Dieu. Se mettent eux sur le trône et dire, à cause que Dieu n'a pas fait ci ou a fait ça, ils se placent au-dessus de Dieu en disant, j'ai le droit, j'ai légitimement le droit de le rejeter. Mes amis, les paroles de Dieu sont véritables, que tout homme soit trouvé pour menteur. Et je parlais de ça l'autre jour avec quelqu'un en partageant l'Évangile. Puis, tu sais, des fois, des gens d'autres religions vont dire, « Ah, Jésus ne peut pas être Dieu, ou ci, puis ça, tu sais, puis bon. » Je dis, la question, ce n'est pas tant théologique de dire, « Ah, j'ai vraiment raison de dire que Jésus ne peut pas être Dieu, et ça. » C'est une question de cœur. Puis c'est toi qui veux te mettre au-dessus de ce que Dieu est pour dire, « J'ai le droit de te rejeter. » Et la vérité, c'est que devant Dieu, là, il n'y a pas d'argument. Qu'est-ce que ça dit dans les Proverbes? Ça dit, « Devant l'Éternel, il n'y a pas d'argument. Y a pas, là, j'ai pas le bon. Je l'ai pas dans mes notes, ce verset-là, là, mais... Tu sais, là, c'est par temps, on dit aussi l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui, là. Mais il y a aussi, dans un proverbe, à quelque part, ça dit qu'il n'y a pas de sagesse. Devant l'Éternel, là, il n'y a pas d'argument. Puis, tu sais, moi, je suis capable de dire ci, puis ça. Et donc, pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui est vrai. Ses paroles sont véritables. Et j'irai encore plus loin. Ses paroles, ou la parole de Dieu, c'est le fondement inébranlable. Et je vais développer un peu là-dessus. Je vous donne deux versets par rapport à ça. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Ici, ça parle aux sauvés, là, à ceux qui avaient de l'argent, mais qui connaissaient le Seigneur. Donc, riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc, le fondement de Christ. Puis aussi, on lit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, ses paroles qui lui servent avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Est-ce que tu es fondé sur Christ, le rocher, sur sa parole? Ça, c'est le fondement inébranlable. Et lorsqu'on est comme ça, fondé sur Christ, parce que ça nous dit dans Éphésiens que Christ, c'est lui qui est le fondement de l'Église, qu'il n'y a pas d'autre fondement que lui. En fait, il a dit que ceux qui entendent ces paroles, qui les écoutent ou qui les mettent en pratique, basent leur vie sur le roc et non pas sur le sable mouvant des pensées humaines et des philosophies humaines. Et ça, mes amis, c'est l'essence de vivre par la foi. C'est-à-dire une vie qui est basée sur ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel, c'est l'autorité finale, ça règle toutes les questions. Il peut y avoir des arguments par un, par l'autre, mais si Dieu a dit que c'était ainsi, il en va ainsi. Si Dieu a dit que c'est un grand poisson, une baleine, un cétacé, qui a avalé son prophète puis l'a craché sur le bord de l'eau pour qu'il finalement aille accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, ben c'est comme ça. Il peut y avoir des gens qui vont dire « Ah, ça ne peut pas une baleine, puis ci, puis ça. » OK, puis création, puis tout ce qui est miraculeux, là, souvent on a ça. « Ah, la main rouge, ils ont passé dans deux pieds d'eau, là. » Ben, OK, d'abord, mais le miracle, c'est que Dieu a noyé une armée au complet dans deux pieds d'eau. Fait que, tu sais, d'un bord ou de l'autre, il y a un miracle pareil. C'est des paroles véritables. Et là-dessus, je vais vous donner quelques versets par rapport au fait d'avoir un fondement inébranlable. Écoutez, je vous les donne en rafale, là. D'abord, 1 Corinthiens 15-58, c'était le thème de la conférence des hommes. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Puis, on a vu ça à la conférence, c'est toute l'idée d'être ferme et inébranlable, c'est pas parce que moi je suis ferme et inébranlable, mais c'est parce que je suis assis sur le fondement inébranlable de Christ, de son œuvre parfaite sur la croix et la résurrection. Écoutez aussi Colossiens, chapitre 1, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Écoutez ici, Hébreux 12, 27 et 28, ces mots, encore une fois, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et j'aime tellement 1 Pierre chapitre 5, et c'est ce que le dernier j'ai par rapport à inébranlable. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous rend inébranlables. C'est lui qui a placé nos pieds sur le roc. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions, d'être basé sur des paroles véritablement qui viennent de Dieu, la parole de Dieu, Jésus lui-même, la parole faite chair. Et là-dessus, je vais amener un élément important, et on l'a vécu en fin de semaine, en allant évangéliser comme ça à une foule de gens, puis tout ça, tellement peu qui connaissent le Seigneur. C'est arrivé, il y en a qui disent, hey, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, puis tout ça. Mais c'était pas la majorité, c'était une très petite minorité. Lorsqu'on est sur le fondement inébranlable de Christ, de sa parole, on a quelque chose que il n'y a pas dans le monde. Savez-vous, même dans l'histoire de la rédemption, nous, on est à la fin de la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé pleinement dans son Fils. Abraham n'avait pas ça. Là. Abraham est un homme de Dieu. Et on va le voir au ciel. OK, c'est un saint de l'Ancien Testament. Mais tout ce qu'on a, nous, qu'on connaît du reste de l'histoire, puis évidemment, tout ce qui est dans le Fils, il n'y avait pas ça. Et même les anges, a dit qu'ils désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Donc, il y a quelque chose vraiment ici qu'on a. Et que savez-vous quoi? Non seulement le monde n'a pas, mais aussi beaucoup de chrétiens, en fait, ce reste la majorité, beaucoup de chrétiens sont trompés par la grande tromperie de la sanctification par les œuvres, où est-ce qu'on dit « Fais ceci, ne fais pas cela et tu vivras. » Ça, c'est le langage de la loi, parce que la foi, qu'est-ce qu'elle dit? Le juste vivra par la foi. On vit soit par la loi ou par la foi. On vit soit par tout est fait, tout est accompli, ou fais ceci ou fais cela. Puis faites-vous-en pas, si on vit à la lumière du fait que tout est accompli, on ne va pas être assis sur notre divan pour ne rien faire, parce que Dieu est vivant, puis si on est en relation avec lui, Dieu agit dans ses enfants, puis il nous dirige. Mais beaucoup de chrétiens sincères qui aiment Dieu, et j'en suis pendant des années, j'ai vécu ça, établis sur le fondement de la parole écrite de Dieu, mais passant à côté de la parole incarnée de Jésus qui vit en nous. Autrement dit, on peut se limiter à la moitié de l'Évangile. Merci Seigneur, tu es mort pour moi, mais passer l'autre moitié de l'Évangile, Seigneur, je suis mort avec toi. Mort au péché, vivant pour Dieu, ça c'est l'Évangile au complet. Ou pour le mettre dans les mots de Romains, c'est possible d'offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, sans avoir la puissance transformatrice du verset 2, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. D'avoir beaucoup de choses qui ont trait à la piété, mais de passer à côté de celui qui vit en nous. C'est triste, mais ce n'est pas irrémédiable, comme plusieurs ici en sont témoins, ont vécu cette joie, cette bénédiction de vivre à la lumière de notre union avec Jésus-Christ. Et ça m'amène à conclure ce matin avec, c'est pas le dernier verset de la Bible, mais pas loin, chapitre 22, verset 17. Tournez avec moi, et d'ailleurs, c'est un cantique qu'on chante dans le petit livre ici, là. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens, Seigneur! » Non, excusez, ça, c'est dans le cantique. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens! » Et que celui qui entend dise, « Viens! » Et que celui qui a soif, vienne! Et que celui qui veut, prenne de l'eau de vie gratuitement. Ça, c'est l'espérance vivante de l'Église de Jésus-Christ. Un jour, on va le voir face à face. Et oui, dans nos cœurs, quand on dit ça, n'est-ce pas? On dit, « Oui, Seigneur, on a hâte que tu viennes, que tu reviennes. » Nous prendre ton épouse, et on sait que c'est une question de temps, c'est imminent, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et savez-vous ce que le Dieu vivant a commencé dans le cœur de ses enfants en leur donnant un nouveau cœur, en les régénérant, il va l'étendre un jour à toute sa création et l'univers, visible et invisible. Il va faire toute chose nouvelle, c'est ce que la Bible nous dit, et pour toujours. Et donc, si tu écoutes ce matin, et que tu n'es pas régénéré, que tu n'as pas ce cœur nouveau. Tu as une religion, tu as des choses que tu sais tout quoi faire, mais il n'y a pas cette nouveauté de vie dans ta vie, dans ton cœur. Ton premier et ton plus grand besoin devant le Dieu vivant, c'est de naître de nouveau, c'est d'avoir la vie, de passer de la mort à la vie. Écoutez à ce sujet-là, Tite, chapitre 3. « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La vie chrétienne, ça commence par un miracle et tout le reste aussi est miraculeux. Pourquoi? Parce que ça commence avec Dieu et ça continue avec Dieu qui est surnaturel, qui est hors de ce monde. Et donc, quand on vit la vie chrétienne, on vit une vie qui n'est pas de ce monde. Es-tu régénéré pour une espérance vivante? Le Dieu vivant lui-même t'appelle à lui ce matin pour faire partie de son épouse, devenir partie de la famille des rachetés. Et je termine avec un mot pour les enfants de Dieu ici. Puisque tu es régénéré, puisque tu as été régénéré par une semence vivante, la semence vivante de la parole de Dieu qui demeure éternellement, ben vis cette espérance vivante. Pourquoi vivre comme si on était vaincu, comme si la fin de l'histoire était mauvaise, alors que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ce Dieu vivant, la Bible nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Notre responsabilité, c'est de nous placer sous son autorité, sous sa sainte houlette, la voix du berger, du bon berger qu'on entend, simplement céder à cette voix. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et oui, les noces de l'agneau s'en viennent bientôt. Et bientôt, ça va... Savez-vous, c'est quoi le dernier verset des psaumes? Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et bientôt, ça va arriver. On n'est pas encore là, mais pour nous, tant qu'on a la respiration, on peut louer l'Éternel. Merci, Seigneur, pour le fait que tu nous donnes la fin de l'histoire et qu'on sait que tout finit bien. Et même Hollywood, qui ne te connaît pas du tout, a souvent ce concept-là, une histoire qui finit bien. C'est la grâce commune, Seigneur, parce que même les gens qui ne te connaissent pas, ils veulent que tous finissent bien. Mais Seigneur, si on est le commencement de l'histoire, ça va finir mal. Mais Seigneur, si tu es le commencement, toi qui es l'alpha et l'oméga, ça ne peut que finir bien. Je prie, Seigneur, que tu sois le commencement aujourd'hui de l'histoire de ceux qui ne te connaissent pas. Soit ici, soit qui écoutent par l'Internet, mais Seigneur, que ta parole ne revienne pas sans effet, sans avoir sauvé, régénéré, donné la vie à ceux qui acceptent Jésus, la provision, le cadeau de Dieu pour quiconque croit. Donc Seigneur, je te prie pour ça. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on lève les yeux. On ne veut pas regarder à ce monde qui va de mal en pire, ou des fois à nos vies aussi, l'épreuve de la foi, les choses qui sont lourdes, qui deviennent parfois insupportables. On veut regarder à toi, dont le joug est doux, le fardeau léger. On vient à toi, Seigneur. Et oui, on veut te louer de tout cœur, parce que tu es toujours bon. Tu règnes éternellement et tu ne changes pas. Merci, Seigneur, pour ce temps dans ta parole. Et Seigneur, que ton peuple ici rassemblé réponde à ta voix, qui nous appelle à toi. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier.